Bonjour, l'Art à Nîmes est le nouveau magazine mensuel de la rédaction de Radio Nîmes consacré à l'actualité culturelle nîmoise et sa région. Pour notre émission du mois d'avril, nous vous proposons, chères auditrices et auditeurs, de découvrir avec nous de nouveaux rendez-vous culturels à nos micros pour parler de la culture en général, au niveau régional et à Nîmes. Ce magazine mensuel est diffusé tous les deuxièmes mercredis de chaque mois et en rediffusion le quatrième mercredi de chaque mois de 15h à 16h. Nous traiterons de l'actualité du cinéma, de la littérature, de la musique, du théâtre, des arts visuels, expositions, conservateurs, directeurs de musées, chargés de la culture et artistes seront mis en valeur en fonction des actualités qui traversent notre temps et le milieu de la culture. Votre émission est co-animée par Bernard Mouret et Isabelle de Montfumin et sous la direction de Bernard Mouret, nous accueillons aujourd'hui avec beaucoup de joie notre acolyte Jean-Sylvain Missel que nous remercions pour l'actualité cinématographique et Vincent Tessier pour l'actualité littéraire du moment. Pour ma part, avec Libre Cours, notre second volet de notre émission de l'Art à Nîmes, j'ai invité aujourd'hui à nos micros Frédéric Pajac, directeur du Festival du Dessin, qui a réussi pour la deuxième édition du festival l'année dernière, du mois de mai, d'accueillir près de 120 000 visiteurs, une gageure pour la profession. Et il nous parlera de sa nouvelle programmation qui compte donc sa troisième édition et qui se tiendra à Arles du 12 avril au 11 mai 2025. Et nous rejoindrons également Mélanie Durand, qui est en charge de la communication du Théâtre de Nîmes, qui nous offre une petite chronique dédiée au spectacle du théâtre pour le mois d'avril. Mais donc, en attendant, place à l'actualité cinématographique du moment avec Bernard Mouret et Jean-Sylvain Missen.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans le studio Jean Orsi de Radio Nîmes avec l'accent. Nous avons le plaisir, c'est vrai, de partager cette émission avec Jean-Sylvain Minsen, le directeur du Sémaphore, et avec lequel on va commencer par évoquer les deux sorties de ce 9 avril. Alors la première, c'est Mikado, et la deuxième, c'est Berger.
Alors, Mikado, on commence par Mikado, puisque c'est l'ordre qui est comme ça. C'est un film un peu surprenant, où deux univers se côtoient. C'est l'histoire d'un couple dont on découvre petit à petit l'itinéraire et l'itinérance, qui a deux enfants et qui est un couple qui est à la marge. C'est-à-dire qu'ils ont un camion... et puis ils se baladent comme ça en province du côté de Toulon et voilà, donc ils sont là en une vie un petit peu nomade, ils font l'école eux-mêmes à leurs enfants et petit à petit on apprend que ils ont été tout simplement maltraités, enfin tout simplement, je dis tout simplement parce que ça paraît tellement évident qu'ils se soient retrouvés eux tous les deux maltraités l'un et l'autre et ils ne veulent absolument pas être confrontés à la société. Ils y sont forcés par un bête panne de camion, qui est leur voiture, leur lieu de déplacement, leur lieu de vie. Ils ont un camping-car. Et ils croisent un prof qui a perdu sa femme, qui a une gamine de 18 ans qui comprend plus dans un petit village de province où il y a la montée du Front National, les gens se parlent plus, s'invectivent, sont un peu agressifs les uns avec les autres. Et donc ces deux univers, ce monsieur en dépression qui est quand même joué par Ramsey, donc Ramsey Bedia, donc c'est pas n'importe qui. Le couple, c'est Félix Moati et Vimé Alaponce. Donc c'est des acteurs qu'on a l'habitude de voir dans des films. Et là, tout ce petit monde-là cohabite le temps de recevoir les pièces de réparation du camion. Et le contact se fait par les jeunes, précisément. Et ça, c'est assez intéressant. Les adultes se parlent, mais ils ont plus habitués à se parler. Et les jeunes se parlent aussi et se découvrent des milieux complètement différents. Celle qui habite dans le camion, elle a juste envie d'avoir le téléphone portable de la copine. Et l'autre, il se dit « Ah ouais, mais tu dors partout, dans les champs et tout, ça doit être génial. » Donc voilà, donc c'est un film sur un morceau de vie. C'est pas du tout un film qui est dans le jugement en disant « ça c'est mieux, ça c'est… » Voilà, on nous expose la vie de ces gens qui sont un petit peu en marge de la société. Et moi, je trouve ça plutôt bien que le cinéma s'occupe de gens comme ça, plutôt que de dire que c'est des marginaux, il faut les laisser de côté. Non, c'est des gens qui ont eu des problèmes et qui essayent de construire leur vie avec le matériel qu'ils ont eu depuis l'enfance.
Et j'ai regardé la bande-annonce et j'ai été surpris par la force des couleurs. Bon, les couleurs sont très fortes dans ce film. Je ne sais pas si vous avez...
Ah oui, ben c'est là où on voit, on s'attend à que de nombreux cinéastes viennent filmer le sud de la France parce que c'est filmé en été. Et c'est vrai que c'est du côté de Bandol que le film est tourné. Et donc il y a la force quand même de la lumière, du vent, du mistral qui passe dans les arbres, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que ça donne une force. Quoi, le soleil, enfin, je pense que nous on s'en rend pas compte parce que on l'a quasiment tout le temps, enfin, sauf en ce moment que ça fait juste 6 mois qu'il fait un temps pourri, mais on a aussi cette qualité de lumière ici, mais on s'en souvient, donc je pense que c'est plus ancré dans nos mémoires, et quelquefois quand on le voit au cinéma on se dit, ah ouais c'est comme ça, voilà.
Alors Berger, comme deuxième
film. Berger, deuxième film qui se passe dans le sud de la France. C'est le début du film est tourné autour d'Arles. Et là, c'est aussi un personnage, c'est un Québécois hyper sympa qui travaille dans la publicité, des choses comme ça. Et il se dit, j'en ai marre de ce métier de fou, je suis totalement dans le boulot. Ça, on le découvre aussi pendant le film. Et le film démarre, il est à Arles, dans un petit hôtel. Alors, ça fait un peu cliché de gens du Québec qui descendent à Arles, le petit hôtel en face des arènes. Et ce gars veut être berger. Là aussi, bien cliché. Ben ouais, c'est facile d'être berger. Il y a que ça à faire. Tenir des moutons, un troupeau de moutons pendant je ne sais pas combien de jours et de semaines, c'est pas facile. Donc il se rend compte de la difficulté de son pari, mais il s'accroche, il rencontre aussi des gens. Il y a des gros cons du sud, de bergers, des fachos, des choses comme ça. Donc il se dit quand même, le sud de la France, c'est pas terrible. Mais il y a aussi des gens qui lui tendent la main, qui lui disent, bah, tiens, t'as pas de quoi vivre, tu t'installes là, on va commencer à t'apprendre un peu la vie avec les moutons. Et donc petit à petit, il arrive à se faire un petit trou et il part en transhumance avec une jeune fille qui a aussi son vécu à elle, un petit peu borderline comme tout à l'heure, et qui se retrouve dans les montagnes des Alpes de Haute-Provence, au-dessus d'un immense lac, en estive, à garder les brebis et les moutons pendant tout un été. Donc voilà, c'est un film sur le besoin de nature, qu'on a besoin de partir. Alors c'est un film de femme, donc hyper sensible. C'est un film qui a été écrit pendant le Covid, donc on sent ce besoin de nature, cette chose-là. Et c'est un peu rigolo, parce que Mikado aussi a été écrit pendant le Covid. Donc comme quoi les choses qui sont marquantes dans la vie, les cinéastes et les scénaristes les écrivent, les digèrent un petit peu avant de nous les raconter. Voilà, donc c'est deux films sur lesquels on est vers la nature, sur des gens comme ça. Donc je voulais en parler là, il commence à être le printemps, on a envie d'aller se défouler un petit peu, de courir dans la garrigue. Donc voilà, deux films qui correspondent à ce besoin de nature qu'on a.
Alors pour les films qui sont toujours à l'affiche, je crois que vous en avez retenu deux. Deux sœurs et Tardes de Soledad.
Voilà, alors il y a Deux Sœurs qui est un film anglais, c'est le dernier film de Mike Leigh. Mike Leigh, ce film a fait l'ouverture du Festival du cinéma britannique dont j'avais dit quelques mots pour l'émission du mois de mars. C'est donc Deux Sœurs et Deux Sœurs qui sont complètement à l'opposé. Une qui est l'adoration faite femme, qui s'entend bien avec ses enfants, qui rigole, même si la vie n'est pas toujours évidente pour des gens de couleur en Angleterre. Et l'autre qui est une espèce de vieille crincheuse, mais qui est malade de dans sa tête. C'est un peu la Tati Daniel, je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà. Elle agresse tout le monde, elle n'est jamais contente. Elle va chez le docteur, la toubib n'est pas assez bien, elle va au restaurant, c'est pas assez chaud. Enfin bon, voilà, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et c'est donc c'est pas une confrontation, mais c'est deux sœurs comme ça qui essayent quand même, parce qu'elles sont sœurs, de s'aimer et de vivre. Et puis la sœur qui essaye de faire comprendre à sa sœur pénible, de lui dire, bah, il faudrait peut-être que tu te prennes un peu en charge. Voilà, donc c'est un film sur l'intimité, sur ça se passe quasiment que en intérieur, les interrogations des enfants et des nièces qui voient leur tante comme ça, qui disent, mais qu'est-ce qu'elle a, voilà. Et donc c'est tout en petites touches, en finesse, il y a des dialogues absolument superbes en anglais, un bel anglais, on n'a peut-être même pas besoin de lire les sous-titres, c'est pas du tout, vous savez, ça part pas à 200 à l'heure. Donc voilà, vraiment un beau film, très touchant.
On passe à la corrida ?
On passe à la corrida, et après je reviens à un autre film, mais on passe à la corrida. Alors, on passe à la corrida. Alors, on passe pas à la corrida, justement. Ah. On passe sur une œuvre qui a pour thème la corrida. C'est pas tout à fait pareil, si vous me permettez.
C'est un portrait, quand même, non?
C'est un documentaire sur un torero qui est Andrés Rocarrey, qui est la star incontournable et montante de la tauromachie actuelle. Je crois qu'il est déjà passé dans les arènes de Nîmes, d'ailleurs, en feria. Le réalisateur qui s'appelle Albert Serra, qui est un catalan, c'est son premier documentaire. Et il a des principes de cinéma, c'est-à-dire qu'il filme la corrida toujours de la même façon. Il a suivi le Torador pendant 3 ans et on voit jamais le public. C'est-à-dire que c'est pas du tout un film d'ambiance où il y a des grandes clameurs de spectateurs. C'est vraiment la puissance du taureau, vraiment, mais qui est filmé de près avec un angle absolument majestueux. Les yeux, il y a des gros plans sur les yeux. Alors, si vous voyez ça sur un grand écran, on se dit, mais comment il a fait? Et sur la beauté des gestes du toréador, toute la gestuelle. Alors ça, c'est dans l'arène, mais il y a aussi la gestuelle de la préparation avant, la manière dont ces toréos s'habillent, toutes les croyances qu'il y a envers la Vierge, tous ces trucs-là. Et puis après, toute la décompression qu'il y a dans les voitures qui ramènent les toreros à l'hôtel. Donc ça, c'est toute la première chose, donc le côté corrida. Et puis il y a aussi, qui est montré, le côté violence de la corrida. C'est-à-dire qu'il y a des plans aussi énormes sur ces mêmes taureaux, mais qui ont été fatigués, qui ont été blessés et qui ont été tués. Et on voit ça aussi. Donc on voit ce parallèle entre la... Et je pense que c'est pour ça aussi que la corrida peut être tant aimé et tant décrié. C'est-à-dire que c'est à la fois une beauté sans nom de voir cet homme devant l'animal, et puis mais c'est d'une cruauté terrible aussi au niveau de la mise à mort. Donc voilà, donc ce film-là ne prend pas position pour ou contre la corrida, simplement il montre, il explique. Et je trouve que, pour moi, ça fait progresser un peu le débat. C'est-à-dire que les gens doivent se dire, on peut dire, ah ouais... C'est quand même violent, je comprends les gens qui ne supportent pas ça. Et de l'autre côté, on peut se dire, mais c'est beau quand même aussi. Il y a des choses qui sont belles, je comprends pourquoi les gens peuvent aimer. Donc voilà. Donc,
ça reste interdit au moins de 12 ans.
C'est interdit au moins de 12 ans, oui, justement pour ces scènes de mise à mort de taureaux qui sont très violentes.
Et vous souhaitez évoquer un dernier film.
Voilà, un dernier film que. C'est un film italien qui est filmé de manière absolument somptueuse. Ça s'appelle Vermiglio. Ça se passe au dernier hiver de la guerre de 39-40 dans des. Je ne sais plus quelle région montagneuse d'Italie. Et c'est une histoire de village qui se réveille après des hivers rigoureux où il y a 1 mètre de neige. Et on voit la chape de plomb après le passage de l'Italie au nazisme, enfin à Mussolini. Là, c'est la chape de plomb de l'Église qui reste, et c'est l'histoire d'une jeune fille qui essaye de se libérer en croisant un cousin qu'elle prend pour le Messie. Et bon, il se trouve qu'elle s'est fait un petit peu rouler dans la farine, mais c'est tout un film par petites touches comme ça. C'est un film de femme, encore une fois, d'une beauté absolument sidérante. Donc si vous aimez les endroits d'Italie où on se dit, cet été, ou à Pâques, là, c'est là que je veux aller, parce que c'est tellement beau, je prends mes chaussures et je me perds dans ces montagnes-là tellement... Vous savez, quelquefois, ça le fait, ça, quand on voit des images, et quand on est au cinéma avec le grand écran qui a des histoires, on a envie de rentrer dans l'histoire tellement c'est beau, tellement on est pris par l'histoire. Donc voilà, Vermiglio ou La mariée des montagnes, c'est le titre exact.
On continue sur la même période historique puisque c'est la semaine de la déportation.
Alors, entre ce soir, demain et après-demain, à l'initiative de Les Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation, le travail de mémoire, c'est quelque chose qui est primordial dans la culture. Bien évidemment, il y a de moins en moins de survivants de la Shoah et de tout ce qui s'est passé pendant cette triste période, mais il y a des enfants de déportés qui continuent à travailler autour de ça. Et donc on a deux acolytes, c'est Jean-Paul Boré et Dominique Durand, avec qui on a travaillé déjà à de nombreuses reprises. Et là, pour les 80e anniversaire de la libération des camps, on a monté une petite programmation. Donc tout à l'heure à 18h, il y a un film polonais qui s'appelle La Passagère et qui raconte en entre guillemets, l'histoire du camp d'Auschwitz et de sa libération. Le film n'a pas été fini parce que le réalisateur s'est fait prendre par le nazisme. Le film ne dure qu'une heure. C'est suivi d'une rencontre avec Vincent Marie, qui est un historien du cinéma, qui est à la fois réalisateur, qui est prof de cinéma au lycée Philippe Lamour, et qui témoigne dans un film qui s'appelle Les fantômes d'Auschwitz. Il est allé avec des enfants de Nîmes visiter, si on peut dire comme ça, ou se recueillir, ou je ne sais pas comment on peut dire, de quelque chose de plus solennel au camp, et c'est la parole de ces jeunes. Donc c'est une espèce de confrontation entre un moment historique comme ça, et puis après la confrontation des jeunes qui pourraient être nos enfants. Voilà. Donc ça, c'est ce soir. Demain, il y a un film extraordinaire, c'est le premier film, et à ce jour seul film, de Sandrine Kiberlin avec Rebecca Marder, un film qu'on a déjà passé qui s'appelle Une jeune fille qui va bien et qui raconte l'histoire à Paris pendant les premiers temps de l'occupation allemande. Ça commence à se tendre énormément pour les gens de culture juive, de religion juive, et une jeune fille qui prend des cours de théâtre, qui veut continuer à vivre. Donc voilà, elle vit avec ses parents qui sont dans la peur, et elle a envie de s'ouvrir au monde. Ça, c'est jeudi à 18h15, et vendredi, pour terminer, à 18h30, c'est une séance qui est présentée par Dominique Durand, qui est un conférencier, un historien, un journaliste, et ça s'appelle, le film s'appelle Triangle Rouge à Buchenwald, donc c'est survivant des camps de Buchenwald. Dominique Durand, c'est un gars, il doit mesurer 1m50, vous commencez à l'entendre parler, il pourrait parler pendant 3 heures, vous sortez, vous dites « j'ai croisé l'intelligence ». Et la bonté faite homme. C'est un garçon extraordinaire. Donc si vous avez vraiment envie de découvrir quelqu'un qui fait du bien, venez, parce qu'en plus, je dis ça aussi pour les enseignants, je m'excuse, je suis un peu plus long que d'habitude, mais c'est hyper important parce que c'est quelqu'un qui se déplace dans tous les lycées, dans tous les collèges, dans toutes les écoles, quand on lui demande, parce qu'il fait ce travail de mémoire absolument irremplaçable et complètement nécessaire, surtout avec les tensions de notre monde moderne. On voit que ça commence à se fissurer quand même dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits de la planète. Donc je pense que nous, en Europe, il faut qu'on bosse là-dessus, sur le devoir de mémoire, pour essayer de bloquer la montée des fanatismes. Voilà. Et donc ce monsieur... Il a 55 ans, il est hyper jeune, mais il a un dynamisme et il est toujours présent, toujours, et c'est un puits de science, mais qui se la ramène pas, quoi. Il n'étale pas sa science comme ça, mais il sait, vous lui posez une question, il vous répond sur un truc qui s'est passé, au fin fond du Jura en 1938, il connaît l'histoire, il sait, et c'est vraiment un beau moment d'échange et un monsieur passionnant.
Merci beaucoup Jean-Sylvain Mirsen pour votre vision très éclairante de la société et du cinéma. Alors allez au sémaphore. Hein.
Oui, alors pour poursuivre nos aspects culturels du mois d'avril, vous savez qu'il y a un spectacle qui sera donné qui s'appelle Romulus, la naissance de Rome, le 25, 26 et 27 avril 2025. Et le groupe EDIS nous propose deux invitations à prendre ici à notre émission. Donc vous pouvez nous appeler sur le standard au 04 66 26 50 51. Les premiers arrivés seront les premiers servis. Alors il s'agit d'un spectacle sur la naissance du plus grand empire dans les arènes de Nîmes, du mythe fondateur de Remus et Romulus jusqu'à la République romaine. Donc vous pourrez vivre ces grandes batailles historiques et les règnes successifs de la royauté de Rome, avec plus de 500 reconstituteurs sur piste, des cavaliers, des cascadeurs, des décors magnifiques, une musique envoûtante. Donc laissez-vous remonter le temps pour 1h30 d'histoire dans les arènes de Nîmes avec Romulus, la naissance de Rome. Et donc les billets sont proposés pour le vendredi 25 avril à 17h30.
Je vous propose une première pause musicale avec le mythique Blue Eyes des Who.
No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty
patience that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do. It's never free.
De retour dans le studio Jean Orsi de Radio Nîmes avec l'accent pour cette nouvelle émission de l'Art à Nîmes. Et j'étais cette semaine dans la librairie Tessier dans la rue Régal et c'était un plaisir et Vincent Tessier va nous présenter quelques livres, les derniers sortis.
Bonjour, écoutez, je vais commencer par une découverte puisque c'est un premier roman d'un auteur qui s'appelle Romain Potocki et qui a fait un livre avec un joli titre, Le Jardin dans le ciel. On est là avec un garçon de banlieue pas située en France, mais n'importe quelle banlieue française, donc un type pas malhonnête, mais qui se cherche un peu, et qui tout d'un coup a une idée. Il veut, sur le toit de son immeuble, ses grands immeubles, ses grandes barres d'immeubles, créer un jardin. Mais pour ça, il a besoin de l'accès au toit. Alors il s'entend bien avec le gardien, qui est un gardien âgé, qui ne peut plus monter, vérifier que tout va bien sur le toit. Donc il lui laisse la clé en lui disant « tu vas regarder pour moi ». Donc il a la clé de là-haut. Mais en plus, dans ce quartier, comme dans beaucoup de quartiers, il y a un trafiquant de drogue qui contrôle un peu tout ce qui se fait dans le quartier, y compris ce qui n'est pas du trafic de drogue. Et donc il faut aller demander l'autorisation à ce mafieux hein, de pouvoir monter cette activité. Ce qu'il va faire, alors... Il est tout jeune, lui, il a 18 ans à peine. Hein, et donc, il demande audience à ce trafiquant de drogue qui le reçoit avec son pistolet à la ceinture, ses gardes du corps, fait, c'est un cérémonial un peu impressionnant. Il s'explique et le type lui dit, ben d'accord, je te donne l'autorisation, tu peux créer ton jardin sur le toit, mais à une condition. Tous les matins, tu ramasses un bouquet des fleurs que tu as fait pousser et tu l'offres de ma part à un habitant du quartier. C'est le deal. Je te demande rien d'autre, mais il faut que tous les matins, un habitant du quartier ou une habitante reçoive un bouquet de ma part. Bon, mais donc, c'est ce qu'il va faire. Il commencera son activité. Il va aussi, quasiment dans le même temps, découvrir une librairie un peu particulière. Et tout le roman s'articule entre son activité de fleuriste, on va dire, et sa découverte de la littérature. Il y croise tout un tas de personnages plus ou moins loufoques. C'est une librairie qui est tenue par une femme particulièrement énergique, mais qui, sur un coup de tête, peut virer un client ou peut décider de fermer. Donc c'est une librairie un peu spéciale. Et c'est la galerie de personnages que l'on croise qui est assez extraordinaire. Ils sont tous plus truculents les uns que les autres. C'est plutôt un livre qui fait du bien. Voilà. Et dans cette période, c'est pas mal, on a plutôt besoin de choses qui allègent un peu. Donc c'est un joli bouquin pour se changer un peu les idées. Alors ça démarre de façon un peu bizarre, parce qu'il parle comme quelqu'un de banlieue. Les premières pages, j'ai l'impression qu'on va pas y arriver. Et petit à petit, le langage lui-même évolue un peu. Donc c'est vraiment très agréable. J'ai passé un excellent moment. Voilà. On va continuer avec un livre qui nous ramène à Nîmes. C'est l'ouvrage de Jean-Jacques Salgon, Le promeneur attentif. Jean-Jacques Salgon, il n'est pas originaire de Nîmes, mais il est originaire d'Ardèche, et il vit à Nîmes maintenant depuis plusieurs années. Il habite dans le centre-ville, dans une rue pas loin de la rue de la République. Et c'est un marcheur, c'est quelqu'un qui promène beaucoup, à pied. Et là, il a décidé de partir de chez lui, donc quasiment de la rue de la République, monter au Castellum, là tout le monde le voit, et du Castellum, il va refaire à l'envers tout le trajet, mais quasiment au mètre près de l'aqueduc. C'est-à-dire il part de Nîmes, du Castellum, et il va remonter jusqu'aux sources l'Eure, à côté d'Uzès. Tout ça à pied, alors par étape, il ne le fait pas en un seul voyage, par étape. Et c'est pour lui l'occasion d'évoquer un peu Nîmes, un peu la romanité, un peu beaucoup cet aqueduc, un peu la littérature, parce que c'est une espèce de balade littéraire, au gré de ses pérégrinations. Et il s'est fait expliquer vraiment, de façon pointue par les archéologues, le trajet. C'est-à-dire il passe vraiment là où passait l'aqueduc, y compris à des endroits où aujourd'hui il n'y a absolument plus rien. Mais il le dit, il y a des moments où je sais que les archéologues m'ont dit que l'aqueduc était là, donc je marche sur l'aqueduc, même si on ne le voit plus, et c'est pour lui l'occasion d'évoquer tout un tas de choses. C'est extrêmement agréable, c'est très bien écrit, ce sont des petits chapitres assez courts, ça se lit, mais on fait la balade avec lui. Et du coup, ça donne envie d'aller découvrir ce parcours, parce qu'il y a encore des endroits où il y a beaucoup de choses. Et alors autant on connaît le Castellum, on connaît le pont du Gard, on connaît les sources de l'Eure, mais au milieu, il y a encore beaucoup de vestiges. À Nîmes, par exemple, il y a un morceau d'aqueduc, mais qui est dans la cave d'un particulier. Et ce particulier, il met ses bouteilles de vin, donc c'est assez étonnant. Et il raconte qu'il il a sonné, il s'est présenté, le monsieur a accepté de le faire descendre dans sa cave, parce qu'elle est fermée, enfin, c'est une cave privée, pour voir un morceau d'aqueduc. Et j'ai vu des photos, parce qu'il a fait un petit diaporama, des photos qu'il a pu faire sur ce parcours. Et il y a des tas d'endroits où il y a encore des arches, des tunnels, parce que parfois il était creusé dans le sol. Enfin, c'est très étonnant. On y apprend beaucoup de choses, même si on pense connaître, on y apprend beaucoup, beaucoup de choses. Et je vous dis, c'est extrêmement bien écrit. C'est une très agréable balade en sa compagnie. Voilà, donc le promeneur attentif de Jean-Jacques Salgon aux éditions du Temps qui fait.
Merci Vincent Tessier. Et vous retrouverez l'essentiel de ces chroniques, et même davantage, puisque là, donc, il n'y avait que deux livres, et il nous fait les commentaires sur sept livres, donc dans les matinales d'Edith. Je vous propose une deuxième pause musicale, alors on va changer un petit peu de style, c'était les Who, maintenant c'est Georges Brassens.
Je redeviens petit garçon, alors je suis sage en classe. Et pour te faire plaisir, j'obtiens les meilleures places. Ton désir, maman, maman, je préfère à mes jeux fous. Maman, maman, demeurer sur tes genoux et sans un mot dire, entendre tes refrains charmants. Maman, maman.
Papa, papa, en faisant cette chanson. Papa, papa, je redeviens petit garçon. Et je t'entends sous l'orage user tout ton humour pour redonner du courage à nos cœurs lourds. Papa, papa, il n'y eut pas entre nous. Papa, papa, de tendresse ou de mots doux. Pourtant on s'aimait bien qu'on ne se l'avoua pas. Papa, 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 papa.
Maman, papa, en faisant cette chanson. Maman, papa, je redeviens petit garçon. Et grâce à cet artifice, enfin je comprends le prix de vos sacrifices. Mes parents, maman, papa, toujours je regretterai, maman, papa, de vous avoir fait pleurer aux temps où nos cœurs ne se comprenaient encore pas. Maman, papa, maman, papa.
Donc aujourd'hui, je vous propose de prolonger notre émission de l'art anime avec Frédéric Pajac, qui est cofondateur et directeur artistique du Festival du dessin de Arles, qui est un rendez-vous du mois de mai, qui est devenu incontournable dans la cité arlésienne, puisque l'année dernière, il a connu un vif succès auprès du public avec près de 120 000 visiteurs. Comme je le disais, c'est une gageure pour notre profession. Et aujourd'hui, donc, je vous propose de rencontrer son directeur artistique qui va nous présenter sa troisième édition et qui nous donne l'occasion de découvrir le monde du dessin sous toutes ses formes. Bonjour Frédéric Pajac, merci d'être à nos micros.
Bonjour, merci de m'inviter, c'est gentil, merci.
Bonjour Frédéric Pajac, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots la fascination que vous entretenez visiblement pour le dessin et qu'est-ce qui vous a amené dès le début, il y a 3 ans, à concevoir ce festival?
Alors le dessin, c'est notre premier langage créatif, avec peut-être la musique qui vient un petit peu après, mais c'est d'abord le dessin. Les enfants dessinent, tous les enfants savent dessiner, tout le monde sait dessiner. Et puis après, à l'adolescence, on arrête un peu de dessiner, et puis finalement, il n'y a que les dessinateurs qui poursuivent. Mais c'est un langage que nous comprenons tous. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans le festival, il y a une exposition des dessins des enfants d'Arles, très importante pour nous, où on présente plus d'une centaine de dessins des enfants qui sont faits avec des artistes que nous invitons dans les écoles. Donc voilà, ça c'est la première chose qui est importante à dire, c'est que le dessin, c'est vraiment un langage premier et un langage qui concerne tout le monde. Et souvent les gens, quand ils voient des dessins, ils se disent « Ah mais ils ont un peu peur des dessins » parce qu'ils ont un peu peur d'avoir manqué quelque chose dans leur adolescence, parce qu'ils n'ont pas continué à dessiner. Mais enfin, ils savent ce que c'est le dessin. Donc il y a un rapport assez particulier au dessin. Et on est moins écrasé que par rapport à la peinture ou la sculpture. On se demande un peu ce que c'est que le dessin. C'est que on sent que c'est quelque chose d'intime, que c'est quelque chose de souvent caché. Souvent même les peintres ont beaucoup dessiné et puis ils ont un peu caché leur dessin. Donc on les a découverts. Maintenant il y a un engouement pour le dessin depuis une vingtaine d'années. Et puis les peintres osent montrer leurs dessins, et pas seulement les peintres, mais les dessinateurs maintenant se sentent légitimes à montrer leurs dessins, quoi.
Oui, justement, c'est ce qu'on a ressenti profondément l'année dernière. C'était cette rencontre, cette proximité avec le langage du dessin et artistique ou avec les dessinateurs purs, hein, comme vous le souhaitez. Et là, vous investissez d'ailleurs dans tout Arles, plusieurs expositions. Et alors, moi, j'ai retenu 3 ou 4 expositions assez fascinantes, dont l'une probablement sera importante, puisque c'est l'hommage que vous rendez à Jean-Michel Follon, sur le festival, avec le dessin de l'humour.
Alors, Jean-Michel Follon, toute une génération se souvient des dessins qu'il avait faits sur la chaîne Antenne 2, où il y avait un dessin animé avec des personnages qui volaient dans le soir ou dans la nuit presque.
Oui.
Et puis c'était vraiment ces personnages bleus qui volaient, tout ça. Et tout le monde a été, évidemment, c'était le générique de d'Antenne 2, donc tout le monde d'une certaine génération se rappelle de ça. Et malheureusement, les gens ne connaissent pas plus Follon que par là. Et Follon, c'est un dessinateur belge, et c'est un dessinateur qui a eu un succès de son vivant, donc il est mort il y a plus d'une vingtaine d'années, et donc c'est un dessinateur qui a eu un succès incroyable et qui a un peu disparu. Donc le but du festival, c'est un peu de le réhabiliter et on le réhabilite en même temps que le Japon, qui fait deux grandes expositions dans deux musées à Tokyo et à Osaka, avec des grandes rétrospectives. Donc nous, on est très contents de pouvoir, et on publie un livre en même temps dans ma maison d'édition qui est Les Cahiers Dessinés, et ça me permet juste de répondre à votre question, c'est-à-dire, en fait, moi, je suis éditeur depuis plus de 20 ans d'une collection consacrée uniquement au dessin, qui s'appelle Les Cahiers Dessinés, et dans lequel on a publié plus de 160 livres, monographies sur des dessinateurs aussi différents que Alechinski, Giacometti, Courbet, etc. Et puis des dessins d'humour comme Sampé et tout ça. Donc on a fait beaucoup de livres. Et pour moi, c'était l'édition appelait un prolongement. Et le prolongement, c'est de pouvoir voir des dessins originaux, ce qui est le but du festival, c'est d'être confronté à un dessin qui vient d'être fait par le dessinateur, presque. Et on a cette proximité qui est assez extraordinaire, quoi. Et nous, on présente, pour donner un chiffre, on présente 1800 dessins dans le festival, ce qui demande un certain temps pour les savourer, parce que ils sont vraiment tous tellement différent, chaque fois une découverte de voir ces dessins.
Oui, oui, c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce festival du dessin, c'est qu'on découvre un monde qui est à la fois doté de l'édition, qui part de l'édition, mais qui va aussi jusqu'à effectivement le dessin de l'artiste à proprement parler. Et d'ailleurs, dans un entre-deux, vous avez présenté, et je crois que ça va être assez fantastique, une exposition autour de la collection de la Bibliothèque nationale de France, avec presque deux siècles d'estampes japonaises qui sont des gravures sur bois, je crois, du 18e siècle et 19e siècle. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu pour parler de ces dessins japonais?
Alors, bon, on sait que l'estampe japonaise, ce qui veut dire la gravure, en fait, c'est la gravure sur bois, en couleur, et c'est vraiment polychrome. Et donc on sait que ça a été un engouement extraordinaire non seulement au Japon, mais assez vite à partir du 19e siècle, c'était un engouement en Europe et en France notamment, et tous les impressionnistes ont été très très marqués par les estampes japonaises, et en particulier Van Gogh, parce que Van Gogh avait une collection de plusieurs milliers d'estampes japonaises. Et nous, on a la chance de travailler avec la Bibliothèque nationale de France, qui possède une très grande collection, et on a pu faire un choix d'une cinquantaine, une soixantaine d'estampes qui sont de toute première qualité, hein, qui sont des choses d'abord d'une très grande valeur sentimentale et esthétique, et qui sont vraiment pour les gens qui connaissent mal la calligraphie
la gravure
japonaise,
oui.
C'est vraiment l'occasion d'être confronté à des pièces maîtresses, quoi, vraiment des pièces uniques et maîtresses. Et donc voilà, c'est une exposition franchement.
Je crois que c'est exceptionnel, oui, effectivement.
Oui.
Oui, oui. Et puis, bien évidemment, il y a multiples expositions à travers ce festival, hein, puisque ça regroupe, je crois, une quarantaine d'expos, hein, je crois que c'est à peu près
oui.
Ça.
43.
Et il y a également une sélection. Alors, je connais très bien Antoine de Galbert, et il est un grand collectionneur et galeriste. Et puis, il avait effectivement sa maison rouge à Paris, qu'il a fermée il y a quelques années, hein, quand même. Mais je ne le connaissais pas comme collectionneur de dessins. Et donc, on va pouvoir retrouver une sélection de presque de 150 œuvres, je crois, qui donne la liberté depuis une quarantaine d'années, un regard décloisonné d'une collection assez riche avec Jean-Michel Alberola, Gilles Barbier, Ansel Belmer, Gaston Chessac, pardon, et d'autres, bien évidemment. Comment vous avez, vous connaissiez Antoine de Galbert, j'imagine, et puis comment vous avez pu créé ce, voilà, cette nouvelle exposition autour de ce dessin.
Vous savez, les meilleures choses se font toujours très simplement. Antoine de Galbert m'a contacté, il avait entendu parler où il était venu voir le festival du dessin des deux premières éditions. Et puis il m'a contacté en me disant qu'il aimerait bien présenter, que si ça m'intéressait de présenter sa collection. J'ai été absolument ravi d'entrer. Donc on n'a même pas eu besoin de discuter, de parlementer. On a tout de suite été sur la même longueur d'onde. Et on lui a proposé comme lieu d'exposition l'église Sainte-Anne, qui est sur la place de la mairie, et qui est vraiment un très bel endroit d'exposition. Et là, on va présenter vraiment ça. Le nec plus ultra de sa collection, et c'est très intéressant pour les, parce que il a non seulement collectionné des œuvres d'art contemporain, mais aussi beaucoup de ce qu'il appelle des curiosités ou des artistes singuliers, des artistes de la marge et tout ça. Donc c'est un ensemble très surprenant, très intéressant, et qui vient complètement logiquement se mettre dans ce festival, parce que je crois que c'est maintenant une ouverture aussi à présenter dans les prochaines éditions aussi, chaque fois des collections.
Mais je trouve que c'est très intéressant.
Collectionneur, voilà.
Je trouve que c'est intéressant. Et alors j'ai présélectionné aussi une exposition qui me paraissait assez prometteuse et une sorte de découverte, pourrait-on dire, de Françoise Perronneau. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette petite histoire, comment vous l'avez rencontrée?
Alors Françoise c'est Perronneau, elle fait partie de nos accrocheurs. Donc elle est artiste et en même temps elle travaille et elle nous aide à réaliser les expositions, accrocher les œuvres et à faire en sorte que tout se passe bien. Donc elle est à la fois au four et au moulin, quoi. Et donc moi je savais pas qu'elle dessinait, donc elle m'a présenté ses dessins. Alors c'est des petits dessins sur verre dessinés avec une encre blanche, et ces petits supports de verre sont projetés sur un mur et deviennent des dessins en noir.
Oui, ça a l'air assez incroyable. Hein. Moi, j'avoue que
c'est très fascinant de voir ça, évidemment. Mais je veux quand même pas oublier de vous dire que il y a aussi une grande exposition avec 270 dessins qui est dédiée au dessin d'humour.
Ah, voilà, oui, aussi, bien sûr.
Parce que le dessin d'humour, si vous voulez, c'est quelque chose qui existait déjà avant-guerre et tout ça, mais qui, après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, après, on a commencé dans les journaux à donner une place très importante au dessin d'humour, qui n'est pas le dessin de presse. Ce n'est pas la même chose. Le dessin de presse a tué le dessin d'humour. Le dessin de presse, c'est le dessin d'actualité, c'est le dessin politique, c'est un dessin éphémère qu'on oublie très vite, alors que le dessin d'humour, c'est un dessin dont Sempé est un des grands représentants en France. Enfin, il n'y a pas que lui, Chaval, Bosque, peut-être
oui,
dessinateurs. Et nous, on présente vraiment des dessinateurs très connus internationalement et des dessinateurs méconnus aussi. C'est un mélange. Et alors, c'est aussi un art qui a été très peu pratiqué par les femmes. Mais on a quand même découvert quelques dessinatrices, et on les présente, je crois que c'est à peu près les seules qui existent, elles ne sont pas nombreuses. Mmh. On les présente aussi dans cet ensemble qui va intéresser beaucoup de gens, parce que le dessin d'humour, c'est évidemment quelque chose de drôle, ou ça peut être de l'humour noir, ça peut être quelque chose de plus grinçant, ça peut être, et c'est souvent un dessin un peu métaphysique, presque un peu surréaliste, qui représente qui s'inspire d'une situation particulière, une situation drôle ou curieuse ou etc., qui est un peu en fait du Jacques Tati sur papier, quoi.
Exactement.
Franchement, l'ensemble qu'on présente, c'est plusieurs collectionneurs, y compris la Bibliothèque nationale de France, qui a un ensemble important de dessins d'humour, et donc c'est un ensemble qui est vraiment unique, parce que je pense que ça fait bien 30 ans ou 40 ans qu'on n'a pas vu une grande exposition de dessins d'humour en France.
D'accord. Écoutez, Monsieur Pajac, je vous remercie infiniment pour nous avoir consacré un peu de votre temps à nos micros. Et surtout, je voulais vous souhaiter un bon festival qui s'ouvre pour sa troisième édition dès samedi, hein, je crois, c'est ça, le 12 avril au 11 mai 2025. Et j'incite tous nos auditeurs et auditrices à aller à Arles pour voir vraiment ce florilège pardon, de dessins dans la cité arlésienne.
C'est moi qui vous remercie.
À bientôt, monsieur.
Merci, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Je vous propose une troisième pause musicale.
Pris leur place, alors elles s'effacent. Quand les vérités sont banales, elles s'étalent dans le journal. Il vaut mieux tourner la page, partir en voyage. J'irai voir tôt ou tard si les sirènes existent sur le dos des baleines. Je suivrai leur piste, car nul ne résiste au charme doux de leur chant d'amour. J'irai voir tôt ou tard si les sirènes insistent sous les flots qui m'entraînent. Je suivrai leur piste, car nul ne résiste au charme doux de leur chant d'amour.
Oh,
Bonjour Mélissa Durand, vous êtes à nos micros pour notre chronique des spectacles à retenir pour le mois d'avril avec le Théâtre de Nîmes. Donc après l'excellente œuvre de Tosca proposée au théâtre les 15 et 16 mars dernier, je vous propose une plongée sur deux spectacles, notamment le spectacle Collision à la salle Odéon qui aura lieu le 9 et les 10 avril à 19h et à 20h et puis le 11 avril à Vergèze. Bonjour Mélissa.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ben, très bien, merci, vous aussi.
Oui, très bien, très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce fameux spectacle de Nasser Djemahi, Collision, qui est, je crois, quelque chose d'assez intéressant, puisque c'est une création que vous avez proposée et en itinérance.
Oui, tout à fait. Je suis ravie de vous parler de Collision aujourd'hui. C'est un spectacle donc, qui est un seul en scène de Nasser Djemahi. Donc, c'est Nasser qui a écrit et mis en scène la pièce. Et ces mots sont portés à la scène par Radouane Lefaï, qui est bien connu en fait des scènes de théâtre, mais également il fait quelques séries télé qu'on peut voir notamment sur Netflix ou ce genre de plateforme. Donc il est assez connu et assez en vogue, si on peut dire. Et donc il reprend les mots en fait de Nasser Djemahi pour raconter l'histoire de Mehdi, ce jeune enfant issu d'une lignée de sept, qui est ce qu'on appelle entre guillemets un accident un peu arrivé comme ça, sans être attendu, et qui s'avère être très brillant, le plus intelligent et le plus doué à l'école de la famille, et que donc on voue à une destinée assez extraordinaire. On met tous nos espoirs en ce petit garçon, mais qui va rencontrer différentes difficultés jusqu'à un accident qui le mènera dans le coma. Et à partir de là, tous les espoirs qui posaient sur lui sont remis en question et sa vie va être complètement chamboulée. Donc évidemment, je vous raconte pas tout le détail, il faut voir la pièce. Mais voilà, c'est un texte très sensible, très beau, plein d'humanité aussi. Voilà, Radouane s'exprime avec beaucoup de fougue et beaucoup d'émotion. Voilà, on a l'impression que ça a vraiment été écrit pour lui. Hein. Il porte vraiment le jeu. Donc voilà, il joue l'enfant, il joue l'adolescent, il navigue dans ce personnage qui est Mehdi du début à la fin. Donc effectivement, c'est à l'Odéon, notre salle de l'Odéon, mercredi à 19h et jeudi à 20h. Et la particularité, c'est que ce sera aussi à Vergèze Espace. Voilà. Vendredi soir à 20h30, voilà, c'est ce qu'on appelle nos spectacles programmés en itinérance, où on va directement à la rencontre des habitants sur le territoire gardois, leur proposer des formes artistiques qu'ils n'auraient pas forcément l'habitude de voir. Mm-hmm. Donc voilà, on est ravis de pouvoir présenter à Vergès ce spectacle vendredi. Voilà.
Et donc, pour prolonger justement l'aspect plus théâtral du Théâtre de Nîmes, puisqu'il y a une soirée purement consacrée au théâtre le 29 avril à 20h, avec un spectacle qui s'appelle « Nos paysages mineurs et en finir avec leur histoire », qui est un diptyque proposé par Marc Lenné, qui nous invite à vivre un spectacle assez original au cœur d'une recherche qui lui est propre. Ils sont à la croisée du théâtre et du cinéma, et qui construit tout son spectacle comme une forme de narration, non pas par l'image comme le voudrait le cinéma, mais par le jeu du violoncelle, où il introduit donc un violoncelliste qui s'appelle Vincent Segal et qui ponctue l'histoire amoureuse d'un couple, Liliane et Paul, et qui dresse une sorte de fresque contemporaine qui mêle leur histoire amoureuse à la grande histoire. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler de ce grand spectacle?
Oui,
ce grand assez spectacle, audacieux, on va dire.
Là, ça fait une grande soirée théâtrale, comme vous l'avez dit. Alors, Marc Lenné, il est déjà venu au Théâtre de Nîmes plusieurs fois. C'est un metteur en scène maintenant qu'on suit depuis longtemps au théâtre, qui est auteur aussi, qui a été comédien, qui est auteur et qui est maintenant un grand metteur en scène. Il a écrit lui-même, en fait, ses pièces. Mmh. Et qui peuvent être joués séparément. Après, c'est quand même une suite, donc il a quand même monté sous forme de diptyque. Donc nous, on propose la soirée complète pour s'immerger complètement dans la vie tourmentée, amoureuse de Liliane et Paul. Donc en fait, c'est un vrai cycle avec la rencontre de Liliane et Paul en plein épisode de mai 68 et tout ce que ça peut engendrer politiquement à l'époque. Donc leur rencontre, leur travail, leur métier, et puis l'histoire d'amour naissante. Ça, c'est la première partie. Et puis en fait, en finir avec leur histoire, c'est leur re-rencontre, si vous voulez, 16 ans plus tard, avec l'évolution de la société, l'évolution de leur vie, parce qu'ils sont perdus de vue, ils se retrouvent. Bon, là, pareil, je ne vous raconte pas le dénouement, bien sûr, mais voilà, donc c'est 16 ans plus tard. Et du coup, au plateau, ça se ressent fortement, puisque les technologies, les décors sont différents, les technologies utilisées sont différentes, avec ce qu'on peut garder comme fil conducteur, effectivement, la musique qui est jouée en live, par Vincent Segal, voilà, qui est quand même assez connu comme violoncelliste et puis qui apporte cette touche un peu poétique. Et puis Marc Lainé au plateau, sa particularité, c'est qu'il veut vraiment immerger le spectateur en fait dans le spectacle. Mm-hmm. Donc il a des dispositifs scéniques assez forts, constitués de vidéos, de photos, de couleurs. Il fait un gros travail de lumière. Donc effectivement, bah, quand on est en mai 68, on est sur un dispositif vidéo assez vintage, des couleurs assez chaudes et ce format un peu ancien. Et puis on plonge dans la modernité et dans le métro et voilà, les formes beaucoup plus modernes 16 ans après, voilà, quand ils se retrouvent.
Oui, je crois que ça va être un spectacle, enfin il me semble que ça va être un spectacle assez intéressant et en tout cas pour presque finir, pas tout à fait, la programmation 2025.
Oui, c'est notre dernière grosse soirée théâtrale de la saison, absolument. Bon, après on a d'autres choses effectivement, hein, mais...
Oui, mais voilà. Voilà. Donc, on vous retrouve au mois de mai prochain à nos micros et donc pour poursuivre cette programmation 2025. Et puis après, évidemment,
avec
il y aura.
Alors, simplement, si je peux passer un petit message, j'en profite d'un petit projet qu'on a au théâtre qui s'appelle Blitzus avec notre artiste associé Marion Musac. On a lancé un appel à participation à des musiciens. Donc, ce que je me suis dit que ça pouvait intéresser éventuellement vos auditeurs.
Oui.
Voilà, c'est un projet, donc ils peuvent aller sur le site internet ou sur les réseaux sociaux du théâtre pour avoir plus d'informations.
Mm-hmm.
Voilà, on est à la recherche de 15 musiciens. Alors, il n'y a pas de niveau requis.
Et de toute formation, j'imagine.
Absolument. L'idée, c'est d'être disponible du 12 au 16 mai. C'est un stage, en fait, qui est gratuit avec la chorégraphe Marion Musac et le saxophoniste Audrey Chy.
Mm-hmm.
Et donc, il y a une semaine de répétition du 12 au 15 mai et une restitution publique le 16 mai.
D'accord.
À niveau requis, c'est à partir de 15 ans, et c'est le moment de rencontrer de vrais artistes et de partager un petit moment
théâtral,
moment
aussi
musical, festif, théâtral, et de voilà, avec un vrai retour avec un public. Voilà, donc si jamais.
Oui,
écoutez, c'est avec grand plaisir qu'on les accueille pour cette expérience.
L'appel est lancé donc auprès de nos auditeurs et auditrices. Et merci beaucoup, et je passe
merci à vous.
Le micro à Bernard Mouret.
Alors, pour rappeler que l'association Trisomie 21 du Gard organise dans ses locaux, alors ces locaux se trouvent au 534 avenue du Maréchal Juin à Nîmes, organise donc une journée fleur au profit de la Trisomie 21. Donc n'hésitez pas à passer chez eux, c'est un très bel endroit. Je rappelle que nous recevrons l'association de Trisomie 21 justement dans la prochaine émission de Cap à Nîmes, ce sera le lundi 5 mai. Je remercie tous les... Si, je vais peut-être juste donner un complément sur la programmation du Sémaphore, parce qu'il y a deux films qui sont toujours à l'affiche tellement ils ont bien fonctionné. Alors c'est Emilia Pérez, il y aura une rediffusion le dimanche 13 avril à 15h, et En Fanfare fera l'objet d'une rediffusion le lundi 21 avril à 14h. Je remercie très sincèrement tous les auditeurs et les auditrices de nous suivre régulièrement et je leur donne rendez-vous pour la prochaine émission de Cap à Nîmes, alors qui se tiendra le mercredi 14 mai, toujours à la même heure.
De l'art à Nîmes.
De l'art à Nîmes.
De
le mercredi 14 mai. Merci.
Merci.
Et à très bientôt. Au revoir.
À bientôt.